Je reviens du monde d'avant. Guy Vanctil sur France Inter.
¿Quién tiene el agua tiene el poder de definir la vida de la gente?
Qui a l'eau a le pouvoir de définir le destin du peuple.
Épisode 6. En Bolivie, histoire d'eau dans l'altiplano.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette dernière étape de notre voyage dans les hauts plateaux boliviens. Après avoir vu les glaciers qui fondent, le Titicaca qui suffoque et le lithium des lacs asséchés, on a voulu prendre un peu de recul, un peu de hauteur dans l'altiplano. Parce qu'à côté de ces bouleversements environnementaux provoqués par le dérèglement climatique, la Bolivie est aussi la scène de bouleversements politiques qui ont projeté ce grand petit pays d'Amérique latine sur le devant de la scène internationale avec des mots d'ordre comme « lutte contre le néolibéralisme et défense de la terre-mère, la Pachamama ». Mais plutôt que des grands discours, on a préféré suivre un sociologue, Franck Poupeau, qui parcourt ces territoires depuis 20 ans et qui publie aux éditions Raison d'agir un ouvrage rassemblant ses années de terrain sur les conflits environnementaux, les inégalités urbaines et les politiques de l'eau. Altiplano, fragment d'une révolution. Dans le sillage de Pierre Bourdieu, il a observé comment, pour pallier l'absence d'État, la survie quotidienne est liée à des formes d'autogouvernement. Communautés indigènes, comités d'irrigation, syndicats de travailleurs, organisations de quartier y font souffler depuis des siècles le vent de la révolte. Luttes qui se sont précipitées au tournant des années 2000 autour de la question vitale de l'eau, avec même une guerre de l'eau, véritable soulèvement de la région de Cochabamba contre la privatisation de la pluie. Et c'est dans cette région qu'on va retrouver Franck Poupeau, à 2500 mètres d'altitude, sur les contreforts de la cordillère des Andes, pour voir au plus près comment les paysans quechua s'organisent là où l'eau fait défaut. Alors, je reviens du monde d'avant, en Bolivie, avec le sociologue Franck Poupeau, Altiplano, fragment d'une révolution au cours de l'eau.
Países del continente, a partir de agosto de 1985, simplemente el modelo económico neoliberal.
The poor people of the world, raised in the squalor, the impoverished boys and girls, different than the quality, nowhere left to turn. Nothing left to do but let it burn. The evil, certain corporations earn, infect and exploit like an environmental germ. Stretching out their greedy and avaricious arms, selfishly they profit as they offer only harm. Speak as if the charm as they detonate the bomb. Creating every water source to buy up all the farms. They take all of the resources and send in all the lawyers to the scorn.
No hay un referente tan claro como la guerra del agua en Cochabamba.
La ciudad de Cochabamba, esto es Bolivia.
Muchas más radicales del pueblo boliviano ante la
la privatización del agua, nada menos.
Si el gobierno no quiere que Aguas del Tunari se vaya, el pueblo tiene que sacar Aguas del Tunari, compañero.
People get tired. Down forever when they're walking on a pride. How long passes till we rise up and ride? They want to charge for everything up until we die. Charge for the luxury of turning on the lights. Charge for security of shelter from the night. Charge us for the water that falls from the sky. You must have a God complex, can't see why. The people won't pay for the basic human rights. It's not right, and if need be, we will fight. And we'll feel the full might of a nation unified. It's just like the battle of Cochabamba. It's just like the battle of Cochabamba. It's just like the battle of Cochabamba. The battle of Cochabamba.
Je reviens du monde d'avant.
Io mi chiamo Stefano Archidiacono.
Je m'appelle Stefano Archidiacono.
Y he tenido la suerte de poder trabajar con varias comunidades para poder ayudar.
Et j'ai la chance de pouvoir travailler avec beaucoup de communautés ici pour les aider à améliorer leur accès à l'eau. On a fait à peu près 2 heures de route, on est monté, on a passé des routes escarpées et là, on est dans un paysage qui est assez beau, assez magnifique, mais c'est des ça ondule très doucement. C'est pas du tout l'image qu'on a de la cordillère des Andes haute. Là, c'est une série de hauts plateaux.
Nos encontramos aquí el Valle Alto.
C'est le Valle Alto.
Una región rural situada a 50 kilómetros de la ciudad de Cochabamba.
À une cinquantaine de kilomètres de Cochabamba, ici, c'est la campagne rurale.
Su principal producto es el maíz, de hecho conocida como el granero de Bolivia.
C'est le grenier de la Bolivie avec le maïs.
Y de hecho una de las mayores limitaciones para el desarrollo agrícola es la escasez de agua.
Et l'un des principaux problèmes auxquels ils sont confrontés, c'est la rareté de l'eau.
De hecho estamos en un territorio semiárido con una estación de la lluvia muy corta, 3 meses al año, una larga estación seca.
Ici on est dans une zone semi-aride et là, c'est vrai que vous faites bien de me le dire parce que on voit des collines vertes aujourd'hui, mais parce qu'on est à la fin des 3 mois où il pleut et les 9 autres mois c'est sec ici.
Pero de aquí a unos 2, 3, 4 meses el color va cambiando hacia el amarillo, hacia el café.
Aujourd'hui c'est vert parce qu'on est à la fin de la saison des pluies. Mais petit à petit, si on revient dans quelques semaines, ça va devenir jaune et puis après brun, comme le café.
Yo diría que para los agricultores, para las comunidades, para las familias, el más grande desafío es la gestión del agua.
Et le plus grand défi qu'il y a pour tous les habitants de la région et pour tous les agriculteurs, c'est l'eau.
Canalizar el agua, distribuir el agua.
Canaliser l'eau, distribuer l'eau.
Entonces yo diría que a nivel global, seguramente estas familias de agricultores andinos ancestrales.
Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est ces paysans des cordillères des Andes qui sont ceux qui souffrent le plus ici du changement climatique.
Seguramente vivir aquí en el campo ahora es mucho más complicado.
C'est devenu beaucoup plus dur pour les habitants ici de vivre dans la campagne. Et là, on voit des petites vaches qui arrivent. Et
avec les bergers, là, il y a toujours quelqu'un qui apparaît chez lui là, sur la plaine. Ils sont là-bas, ils sont cachés là. Ah.
Ouais, on va voir Beltrán.
J'ai vu, il y avait toujours quelqu'un qui allait apparaître ici.
Alors on prend une petite route tape-cul. On est loin de la route principale là maintenant. Et on voit au fond Navalé, quelques petites maisons, dans un paysage qui est très beau, de collines rocailleuses qui ondulent. Et comme c'est la fin de la saison des pluies, on voit un tout petit peu de verdure, mais on sent que c'est sec.
Et en bas, tu vois le cours d'eau.
Ouais. Un petit cours d'eau, quoi.
Bah oui. Il n'y a pas de source ici, quasiment. Donc c'est les eaux de pluie, principalement. Là, c'est le tank.
Ah voilà,
ils ont mis avec, là.
Ah, de la circulation en avril.
Et voilà le réservoir là qui est installé. Un petit barrage qui a été fait. Et c'est vrai que tout autour c'est tout sec. Pas très. J'essaie de ne pas tomber dans la flotte. C'est pas très grand. Avec un petit mur en béton qui a été construit pour retenir l'eau.
Yo me llamo Freddy Beltrán Peralta. Soy de la comunidad de Villaflor de Pucara.
Je suis Freddy Beltrán Peralta. Je suis de la communauté Villaflora de Pucara.
De aquí hacemos captación de agua aquí en nuestro lugar.
Donc ici on fait de la captation d'eau.
Para regar nuestras plantas, para eso necesitamos esta agua.
On a besoin de cette eau pour irriguer nos plantes.
El clima mucho ha cambiado este tiempo porque ya no hay como antes la lluvia, por eso hemos levantado esta.
Le clima a beaucoup changé, c'est pour ça que maintenant on a besoin de cette retenue d'eau parce qu'il y a beaucoup moins de pluie.
Vous avez eu des mauvaises récoltes ces dernières années justement à cause de cette raréfaction de l'eau?
Sí, mucho hemos tenido esa parte, por eso la gente que casi ya no vive aquí, por eso se han emigrado a otros países, han ido a otros lugares.
Il y a plus beaucoup de gens qui vivent ici parce qu'il y a plus d'eau et donc c'est difficile de cultiver. Et donc il y en a beaucoup qui sont allés dans d'autres villes ou même dans d'autres pays et donc maintenant il y a quasiment plus personne.
Hay unos que son todavía unos antiguos gente que tienen mayores son, entonces que
actuellement il reste surtout les personnes âgées. Moi je veux pas laisser ma communauté, alors je fais des allers-retours avec le village qui est en dessous, mais il y en a de moins en moins qui reviennent dans la communauté. Donc il y a plein de terres en fait qui sont inexploitées.
C'est ça quoi, ces collines là qu'on voit sont en train de se dépeupler à cause de la raréfaction de l'eau.
Despoblación porque por falta de agua estamos pidiendo ahora también una para agua potable, están proyectando la alcaldía, pero casi no nos apoya ni nada.
En fait, il y a aussi des problèmes d'eau potable, on n'a pas beaucoup d'eau non plus pour la maison. C'est pas faute d'avoir réclamé à la municipalité qu'on nous construise des réservoirs d'eau, des citernes pour avoir de l'eau, mais ils ne nous ont jamais entendus.
C'est un souci permanent. L'eau, pour boire et l'eau pour cultiver. On va visiter le village et les champs, là.
Vamos.
Vamos. On reprend la voiture et on continue dans ces campagnes des hauts plateaux boliviens à la recherche de l'eau. Mais tout ça, c'est les habitants qui se prennent en charge eux-mêmes. C'est pas les pouvoirs publics qui s'occupent du raccordement à l'eau ou de l'irrigation de toutes ces zones agricoles.
Aquí, como muchos otros territorios de los Andes, históricamente han vivido afuera del Estado-nación.
Ici, comme beaucoup d'endroits des Andes, ils ont vécu en dehors de l'État-nation.
Mayormente, la infraestructura hidráulica se realiza gracias al esfuerzo y los recursos de la comunidad.
Dans beaucoup de cas, les infrastructures hydrauliques se sont faites avec la force des communautés et leur travail.
La organización y la reglamentación de la vida se realiza sobre
l'organisation de la vie se fait de manière communautaire et ils prennent toutes les décisions ensemble.
Y la gestión del agua entra en este mecanismo.
Et la gestion de l'eau rentre dans ce mécanisme.
Allons.
On le disait, l'eau est ici un tel enjeu qu'elle a provoqué une véritable guerre de l'eau en 2000. Et Oscar Oliveira, qu'on va retrouver, en a été un des acteurs de premier plan. Fondateur de la Coordinadora, l'organisation au cœur des mobilisations populaires de Cochabamba, ce leader syndical exemplaire qui a connu la clandestinité a contribué à pousser Evo Morales au centre du jeu politique. Mais lui, il a préféré suivre un autre chemin. Plutôt que faire la révolution par en haut, travailler avec ceux d'en bas, fût-ce tout en haut des montagnes. Et il a utilisé l'argent reçu avec un prix international pour créer la fondation Abril, au service de petits projets d'équipement en eau dans des communautés comme celle où nous trouvons. Pas juste pour aider les plus modestes, mais pour une éducation populaire à la gestion de l'eau. Et surtout, pour ouvrir des perspectives d'émancipation politique. Car l'eau, c'est politique.
Bueno, soy Oscar Oliveira, he sido dirigente sindical.
Je m'appelle Oscar Oliveira et j'étais dirigeant syndical et j'ai été dans des organisations, des mouvements sociaux à partir des années 2000.
Básicamente, en la guerra del agua se luchó porque el agua es un bien común, el agua no puede ser una mercancía.
La guerre de l'eau, c'était donc pour lutter pour que l'eau soit un bien commun et que ça ne devienne pas une marchandise.
Hubo una ocupación de nuestro territorio por parte del capital transnacional y la gente acá se organizó.
Au début des années 2000, des transnationales ont occupé notre territoire et c'est pour ça que nous avons décidé de les expulser parce que c'était pas notre forme de vie.
Et c'était quelle multinationale de l'eau?
Era Abengoa
d'Espagne, Edison d'Italie et Bechtel des États-Unis.
Et donc, vous avez décidé avec les activistes sociaux, vous avez décidé d'expulser tout ça. Simplement, les multinationales qui garantissaient la distribution de l'eau pour le faire avec un modèle communautaire. C'est bien ça l'idée ?
Si, ici en Bolivie, les deux terceras partes de la population.
Ici, les deux tiers des gens en Bolivie utilisent des systèmes communautaires d'eau.
Son espacios donde la gente decide. No decide el gobierno, no decide.
C'est des endroits où sont les gens qui décident, c'est pas un parti politique, c'est pas un gouvernement, c'est pas un gaudillo, c'est les gens.
Resulta que la gestión del agua no es solamente un problema técnico ni un problema administrativo. Es un tema de la gestión del agua y que tiene que ver con el poder.
L'eau, c'est pas seulement une gestion administrative, c'est une gestion qui a à voir avec le pouvoir.
De poder político de la gente.
De pouvoir des gens, du peuple.
El agua posibilita articular a la gente y la
le fait de gérer l'eau de manière communautaire crée des liens, des manières de s'organiser et donc ça leur permet aussi de discuter de leurs problèmes et de pouvoir échafauder des agendas politiques car les gens savent déjà s'organiser entre eux.
Qui contrôle l'eau contrôle les gens en fait, c'est ça que vous me dites. Et autant que ça soit les gens qui contrôlent l'eau pour se contrôler eux-mêmes.
Exacto, ¿no? O sea, quien tiene el agua tiene el poder de definir la vida de la gente.
Qui a l'eau a le pouvoir de définir le destin du peuple.
Ah, là, pendant ce temps-là, on entend, c'est c'est le marchand de fruits et légumes qui passe.
Sur France Inter, je reviens du monde d'avant. Épisode 6, en Bolivie,
Histoire d'eau dans l'Altiplano.
Dans le petit village. Alors là, il y a un carré de fleurs qui est planté. Là, il y a du maïs. Oh, il y a une petite dame là qui est dans son champ avec son chapeau bolivien classique, cette petite jupette.
Elle ramasse des pêches.
Elle ramasse des pêches. Et là, c'est des haricots, c'est des... Ah, les pommes de terre avec des petites fleurs violettes. N'oublions pas quand même que la pomme de terre vient de cette région du monde. Le maïs, pareil. Là, on voit des épis de maïs avec des fleurs violettes. Là, c'est un amandier qui fait un peu d'ombre. Et c'est une vieille maison en pierre. Et on suit Beltram qui nous amène dans son village avec le petit carré de potager là. Et la délicieuse odeur du feu de bois qui vient de la maison derrière où on voit des monsieur et la dame qui nous reçoivent là, qui parlent quechua. Voilà, mucho gusto, encantado. El profesor qui nous reçoit. Et là, il y a Donna Ricarda, son épouse, qui était occupée de faire la cuisine. Voilà, mucho gusto, encantado. Gracias. Et Don Julio, là, qui tombe dans les bras de Beltram. ¿Qué tal? Muy bien. Et comment on dit bonjour alors en quechua?
Sumapunche.
Sumapunche. Don Julio.
Sí.
Je peux vous demander votre âge?
80.
80 ans.
Uh-huh.
Et vous avez toujours vécu ici?
Si. J'ai nacé ici, dice que mi papá hizo toda la casa.
Oui, moi je suis né ici. Mon père a fait toute cette maison.
Antes vivían harto. Ahora se han ido a Chaparé.
Avant, il y avait beaucoup de monde ici. Mais maintenant, les gens sont partis dans le Chaparé ou à Cochabamba.
Pero yo no he ido a ninguna parte, solito estoy aquí, trabajando siempre.
Mais ici, il y a moi, Don Esteban qui habite à côté, et peut-être une autre personne.
Et c'est vrai que dans la vallée, on voit pas mal de maisons qui sont plus ou moins abandonnées, plus ou moins en ruine. Et comment on dit de l'eau en quechua?
Yaku.
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 Et yaku, c'est quelque chose de très précieux ici.
Ah, yaku, voilà. Waler quiere decir bueno.
Ah, l'eau c'est bien. Waler, yaku waler. Maintenant j'ai appris mes premiers mots en quechua. Ah, et les dames pendant ce temps-là, elles sont en train de mettre des pommes de terre à cuire dans de l'eau chaude, au-dessus du feu, avec leurs polera, c'est des petits jupons avec plein d'épaisseur et plein de couches. Ces deux grand-mères, vraiment toutes fripées, toutes ridées par le soleil d'altitude, et qui ont des jolies tresses poivre et sel qui descendent jusqu'à la taille. C'est impressionnant, la dame, elle est voûtée, elle est pliée en deux, quoi. Elle voit de la vie au champ et la vie au-dessus de ce fourneau. Elle avance, pliée en deux. Et pendant ce temps-là, comme d'habitude, il y a les gars qui sont en train de trinquer pendant que les femmes turbinent au feu. Et tout de suite, il y a plein de vie, là, dans ce petit village.
Je vais chanter le carnaval. Hoje eu sinto e pega, bandido cargone. Hoje eu sinto e pega, bandido cargone. Se que mira tapis, chichi a chirgane. Se que mira tapis, chichi a chirgane. Isso é o carnaval.
Merci. Ça raconte quoi cette chanson alors?
Quand petit j'étais un bandit, jusqu'aux fourmis je les mettais enceintes.
Ça les fait rire les papis quechua. Là. Les chansons grivoises des papis quechua qui sont morts de rire, à moitié édentés, et qui se remettent leur petite chic de coca entre deux vannes. Et qui vivent une vie tranquille, somme toute, ici. Dans ce petit village à moitié déserté, les derniers habitants de ce petit coin de la campagne qui vivent de la nature. Des vipères. Et là, c'est la partie couverte du réservoir. Et voilà, là on soulève un truc en tôle.
Pour cette partie, llevamos, de ici sacamos el agua, et pour tomar un poquito, tenemos aquí un tanque que hemos hecho con la
Fundación. Alors, ça, c'est l'eau qui vient du coup de la route Mudo, qui va jusqu'à la communauté, où il y a une citerne pour la récupérer, qui a été faite par la Fondation Abril. Et donc là, ça, c'est l'eau qu'on boit.
Ah ouais, mais elle n'est pas très très claire, si vous me permettez.
¿Es agua potable eso?
Sí, para agua potable también consumimos, hemos hecho varias cosas para filtrar.
L'eau est un peu sale, mais on n'a pas le choix, on est obligé de prendre ça pour pouvoir boire. On la filtre un peu plus bas et on la prend comme ça, on ne rajoute pas de produits pour la traiter.
Si on s'approche, on voit qu'il y a de l'écho. Ah, ah.
Et allá tenemos la salida.
Et l'eau sort de l'autre côté. Ah oui, on voit les valves là qui sortent et qui vont vers le village à quelques centaines de mètres plus bas.
Moi, depuis, j'en ai construit plus de 40 de citernes comme ça. On a fait ça il y a 5 ans avec les compagnons de la Fondation Abril. J'avais jamais fait de citerne, donc c'est la première fois, j'ai appris. Et on a fait ça, c'était la main-d'œuvre de toute la communauté qui a aidé à construire ça.
Le prochain défi, comme a dit Beltrán, serait améliorer la qualité.
Donc le prochain défi, comme le disait Beltrán, c'est de réussir à avoir une meilleure qualité d'eau. Mais c'est vrai qu'ici, c'est pas facile parce que l'eau est très turbide avec des poussières très fines qui vont pas vers le fond.
Est-ce que, Franck Poupou, est-ce que ce que fait cette communauté ici, ce petit village de la campagne autour de Cochabamba, c'est représentatif un peu des questions de gestion de l'eau communautaire ici?
Oui. Les formes d'organisation, la construction de retenues d'eau, oui, c'est tout à fait classique, ouais. Mais pour tous les problèmes d'irrigation, effectivement, ils sont obligés de s'organiser, en fait. Le truc, c'est qu'auparavant, quand tu avais assez de monde, tu pouvais faire des canaux, tu pouvais monter l'eau, faire des systèmes, etc. Maintenant, t'as plus ça, tu es dépendant des organismes extérieurs, parce que t'as plus la main-d'œuvre pour faire ça.
Ouais. Là, on nous fait signe parce que les grands-mères sont en train de nous préparer un déjeuner avec la récolte du jardin. Au fond d'une vallée andine, avec... tout d'un coup de la verdure, des oiseaux, de la vie, le bruit du ruisseau qui court, des fleurs qui poussent, très très loin des paysages et des aspects arides qu'il y a ici sur les contreforts de l'altiplano. Ici, c'est vert, grâce à la mobilisation de tous les habitants et des fermiers pour la gestion communautaire de l'eau où chaque goutte est le fruit d'un travail collectif et d'une négociation souvent ardue.
Je reviens du monde d'avant sur France Inter. Altiplano, fragment d'une révolution au cours de l'eau.
L'eau a le pouvoir de définir le destin du peuple, nous disait Oscar Oliveira. Et c'est un peu ce que Franck Poupou a cherché pendant ses 20 années à sillonner l'altiplano, pour essayer de comprendre la logique politique de ces insurrections populaires devenues expériences de gouvernement sans précédent. Car si on a beaucoup parlé de la Bolivie depuis 2006, ce n'est pas qu'à cause d'Evo Morales, président pendant 14 ans d'un pays qui a connu pas moins de 160 coups d'État depuis son indépendance en 1825. Car qu'il soit haï par les uns ou bien adulé puis conspué par les autres, le premier président indien d'un pays d'Amérique latine, avec ses discours contre le néolibéralisme ou pour la défense de la Pachamama, la terre-mère, est le produit d'une longue histoire de lutte. Alors après Cochabamba, on retrouve Franck Poupeau à Ampaturi, une vallée fertile près de La Paz à 3800 mètres, où il veut nous montrer le grand barrage affiché comme une réalisation de la Nouvelle République. Mais qui, pour le sociologue, cache mal aussi le paradoxe après 14 années de pouvoir. Il y a eu des avancées matérielles et sociales, mais à quel prix ? Un constat en demi-teinte et l'occasion d'un retour en arrière.
Je reviens du monde d'avant.
Ampaturi. Ouais, hein. Brrr. S'il y a du vent, en plus, c'est loin. S'il n'y en a pas moins là, par là. Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Ministère de l'environnement et de l'eau.
À l'origine, il y avait le ministère de l'eau. C'était une grande première en 2006 en Bolivie et ailleurs, je pense aussi, d'avoir un ministère de l'eau.
Ici, c'est Ampaturi.
Ampaturi, ouais.
Et c'est, donc, c'est ici qu'une grande partie de la fourniture de l'eau de La Paz provient
de la zone
ici,
sud de La Paz. De la zone sud de La Paz, oui. En fait, ouais, on peut voir, il n'y a pas vraiment de problème d'eau, en fait, à La Paz, au sens où y a plein de cours d'eau qui circulent, même dans la ville. Les problèmes, ils sont de deux ordres. L'augmentation de la demande avec la croissance urbaine et puis le problème de gestion et de réserve et surtout de politique hydrique au sens large. À savoir, la seule façon de traiter l'eau ici, c'est de faire des barrages et de l'acheminer.
C'est-à-dire que là, il y a une prise d'eau gigantesque, deux barrages consécutifs. On voit des canalisations qui s'élancent tout au long de la vallée jusqu'à la ville. Mais les gens qui habitent au bord du cours d'eau, eux, ils n'ont pas d'accès à l'eau.
Voilà. Les canalisations emmènent directement dans les usines de traitement, mais les gens autour ne l'ont pas. Alors, du coup, c'est une bataille sans fin au détriment des usagers au final, mais surtout au détriment de l'image que pourrait donner un service public capable de fonctionner correctement. Quoi.
La Bolivie, en état d'urgence. La coupure dans les grandes villes, pénurie dans les campagnes, la crise est au cœur de plusieurs tensions. La gestion du gouvernement est mise en cause.
Estamos totalmente olvidados por la tierra.
On est totalement oubliés.
Nous nous sommes conectados. Nosotros no
on n'a pas accès à l'eau qui vient du barrage là. On n'a pas d'eau potable.
Que estamos a un paso de
alors
la
qu'on est à quelques pas de la ville et qu'on est le poumon d'eau de la ville de La Paz. Et on n'a rien.
En Bolivie, histoire d'eau avec Franck Poupeau.
On bouffe la poussière là. Pourquoi, vous qui avez fait vos premiers travaux sociologiques sur l'école, sur l'éducation en France, vous êtes venu ici jusqu'en Bolivie pour travailler justement sur l'eau ?
Non, c'est un peu une longue histoire, hein, mais l'intérêt des travaux sur l'éducation, surtout à une époque où moi je bossais avec Bourdieu, ou à l'époque qui était très très anti-bourdieusienne, hein, dans cette discipline. Quand tu découvres un pays comme la Bolivie et tu tombes dans la guerre de l'eau, voilà, à Cochabamba, là, t'as accès à des faits sociaux, on va dire, un peu plus intéressants, quoi. En plus, c'était l'époque de l'altermondialisme, hein, quelque peu triomphant de façon prématurée. Et il se passait quelque chose ici qui ne se passait pas ailleurs, ni dans les assemblées participatives à Porto Alegre, les grands rassemblements. Là, il y avait eu vraiment un truc.
C'était le tournant fin passé. 90, début 2000.
Voilà, voilà. Et là, une entreprise qui se fait expulser, des insurrections.
Alors, juste un mot justement sur là, un petit historique sur la guerre de l'eau.
En fait, il y a une entreprise américaine, Bechtel, qui veut s'installer à Cochabamba, fin des années 90. Donc la privatisation est décidée, mais dans une ville qui était une ville un peu spéciale. Cochabamba, c'est le berceau politique des révolutions en Bolivie. C'est aussi un lieu où il y a des communautés très très organisées, un tissu d'organisation sociale, aussi bien du côté des comités d'irrigation que des comités de quartier et des syndicats de travailleurs qui étaient extrêmement mobilisés et prêts à agir. Et l'erreur qu'a fait la Bechtel, c'est de vouloir non seulement augmenter les tarifs, mais empêcher les gens de récolter l'eau de pluie. Donc là, il y a eu une mobilisation générale qui s'est faite sur plusieurs mois, de novembre 1999 jusqu'au blocage de la ville en avril, qui a duré quelques jours, et avec une répression féroce des tanks qui ont été amenés à Cochabamba. Il y a eu un mort, 60 blessés, dans le monde d'arrestation. Les dirigeants comme Oscar Rivera sont entrés dans la clandestinité, mais le blocage a été tel qu'ils ont dû casser le contrat et repartir, et voilà.
C'est-à-dire que voilà, c'était vraiment la logique libérale à son comble, c'est-à-dire voilà. Que même la pluie, vous devez la payer.
Exactement. Ouais. C'est de voir que les victoires sociales contre la privatisation à l'époque, ça m'apparaissait comme ça. Alors que dans ce petit pays-là, il se passait un truc assez incroyable. Et pour la première fois, une entreprise se faisait éjecter à pertes et fracas.
Estas son las imágenes imágenes que reflejan definitivamente la situación que vivió Cochabamba durante la jornada de este viernes.
Toute cette ébullition sociale a accouché aussi une révolution politique ici en Bolivie avec l'arrivée au pouvoir d'Evo Morales et sa coalition du MAS, Movimiento al Socialismo, ça veut dire mouvement vers le socialisme.
Alors, faut dire mouvement vers le socialisme, instrument politique pour la souveraineté des peuples, IPSP.
C'est ça le nom entier.
Voilà. En fait, les mouvements paysans et ouvriers hein, étaient relativement structurés. Et un des soucis pour eux, c'était d'accéder au monde politique. Et ça a été mené par pas mal de leaders de l'époque. Evo Morales lui-même, qui était le président des fédérations des cocaleros et du chaparral.
C'est un syndicaliste, quoi.
Voilà, c'est un syndicaliste. Et Morales devient député. Et il fait sa carrière politique à deux niveaux. D'un côté, il se greffe sur la guerre de l'eau en tant que président des cocaleros, mais il n'y est pour rien dans la guerre de l'eau, quelque part. Hein.
Mais cette mobilisation a été un peu son tremplin.
Voilà, il en récolte les bénéfices politiques parce qu'il est un des rares députés. Il prend la défense des gens mobilisés, des blocages, et notamment, et aussi des cocaleros qui bloquaient de leur côté à Cochabamba, et le Parlement décide de l'exclure. Et il devient vraiment une figure nationale en 2002 quand l'ambassadeur des États-Unis déclare « Attention, si vous votez pour ce type, on va pas être content, on va vous retirer des fonds ». Voilà, ce qui est dans la Bolivie du début des années 2000, qui était quand même déjà échaudée, avec un président qui menait une politique de nouveau de privatisation à tout va. Et là, c'est l'explosion finale avec cette demande de souveraineté nationale et de gestion nationale des ressources et d'industrialisation nationale. Alors qu'on est un pays pauvre, qui a beaucoup de potentialités de développement, donc pourquoi exporter de nouveau les richesses et ne pas en voir la couleur? Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque aussi, les contrats pétroliers ou sur les hydrocarbures étaient extrêmement avantageux pour les entreprises étrangères. Je me rappelle de Total qui disait finalement, quand Evo Morales nationalise les hydrocarbures, finalement on revient à des contrats normaux, quoi. Ils étaient là à des taux tellement usuraires, on va dire 82% de bénéfices, que juste c'était revenir à un pourcentage normal de 18% de bénéfices, ça suffisait, quoi.
Leader du mouvement vers le socialisme, Evo Morales a promis de réformer le secteur des hydrocarbures et de nationaliser le gaz, principale richesse du pays.
Nationalisation d'une partie du secteur des hydrocarbures, permettant de multiplier par deux le PIB par habitant en quelques années, mais aussi campagne d'alphabétisation et de vaccination avec des résultats très significatifs.
Deux promesses électorales qui font déjà d'Evo Morales la nouvelle bête noire des Américains.
Avec l'arrivée d'Evo Morales au pouvoir, c'est en 2006.
Il est élu en décembre 2005, voilà. Et il prend ses fonctions en janvier 2006.
Tout d'un coup, naît l'espoir ici, et qui est un espoir qui a un écho international, de pouvoir renverser la donne pour une fois. Ce n'est pas toujours les multinationales qui vont diriger la marche des choses et la vie des gens.
L'espoir, il a plusieurs niveaux. Il y a donc cette thématique de souveraineté nationale sur la gestion des ressources et sur l'idée d'un développement propre. Il y a quand même l'idée aussi que ce processus de changement doit s'accompagner d'un processus de refondation et d'une nouvelle constitution. Et c'est une des premières mesures qui est mise en œuvre dès 2006 avec une élection très très large d'une assemblée constituante, très controversée aussi, toute l'opposition met des freins pas possibles, avec des élites qui se pensent comme blanches, très occidentalisées, américaines.
Qui voient d'un très mauvais œil cet indianisme. Et on l'entend encore aujourd'hui dans certains quartiers riches. Il suffit de traîner un peu l'oreille, on entend très vite des phrases très désobligeantes vis-à-vis de tous ces gens basanés que sont les Indiens.
Oui, alors là, faut revenir un peu en arrière. C'est vrai que dans l'ensemble de l'espoir qui était porté par l'arrivée au pouvoir d'Evo Morales, il y avait cet agenda d'octobre, souveraineté nationale, industrialisation nationale, assemblée constituante, mais il y avait aussi un peu toute cette vision enchantée d'Evo Morales comme le premier président indigène du pays, de dire, et ça c'était quand même la révolution symbolique la plus importante sans doute qui a conféré à Evo Morales une aura incroyable, puisqu'il était ce président indigène qui portait un espoir, une nation nouvelle, et qui, de fait, a réhabilité des populations qui étaient largement méprisées et ignorées.
La victoire d'Evo Morales, le premier Indien à remporter les élections présidentielles dans ce pays. Une victoire fêtée dès hier soir et que le futur président entend mettre au service des Indiens qui représentent plus des deux tiers de la population bolivienne.
Nous allons mettre fin à la discrimination et à la haine et au mépris auxquels nous avons été soumis historiquement. Nous voulons vivre dans la diversité, changer le modèle néolibéral et en finir avec l'État colonial.
C'était le premier Indien, le premier Amérindien à être élu à la présidence de la Bolivie. Bolivie qui est le seul pays d'Amérique latine à avoir une majorité de ses habitants qui est indigène.
Dès qu'il arrive au pouvoir, il y a cette intronisation symbolique un jour avant à Tiwanaku, avant le Parlement. Et le discours se teinte d'un indianisme très très radical. Et de référence à la Pachamama, du coup, tout ça.
Et c'est à ça que je voulais venir, justement, Frank Poupeau, parce qu'il y a donc ce mouvement politique qui est dans la mouvance altermondialiste, avec cette réalité locale ici indianiste, et puis ce discours qui est en phase aussi avec la Pachamama, la protection de l'environnement, cesser d'exploiter, de détruire.
Mais ça, c'est pas présent au moment où Evo Morales se fait élire. Il est vraiment élu sur des thématiques nationales. C'est vraiment au moment d'arriver au pouvoir qu'il y a cette sorte de symbiose qui se fait. Et Evo Morales
surfe,
mais sincèrement, je pense aussi, mais ça va lui jouer tout ensuite. Il promeut ses discours de la terre-mère au niveau international. Il se fait un peu le héros de l'écologie
aux Nations Unies.
Il promeut le jour de la terre-mère en 2009. Ça met un peu plus de temps pour arriver en Bolivie, en 2010. Voilà. Et après, du coup, ça va aussi donner à ses opposants, d'abord de gauche, puis de droite, l'occasion de le prendre en défaut sur une sorte de double discours. Le gouvernement promeut la terre-mère, etc. Mais en même temps, vous continuez d'exploiter les hydrocarbures.
Avec un modèle productiviste, extractiviste.
Voilà. Alors ça, il y aurait beaucoup à dire sur cette critique, puisque voilà... Il était quand même difficile de demander au gouvernement Morales de tout arrêter et comme le disait à l'époque García Linera, de revenir à l'endroit à l'âge de pierre.
Quoi. Et de vivre d'amour et d'eau fraîche.
Voilà. Et surtout que, du coup, quand on est engagé dans un processus de changement par des moyens démocratiques, pour que les gens votent pour vous, il faut quand même faire un minimum de choses. Et sans moyens, sans rentrée financière, il n'y a pas de solution. Donc, ils ont été obligés, mine de rien, de maintenir cette matrice productiviste.
C'est-à-dire le gaz. Les mines d'étain, de zinc, de plomb et d'or. Voilà.
Mais qui étaient en grande crise à l'époque et que le gouvernement a tenté de réguler. Mais par ailleurs, il y a toujours eu la conscience que tout ça, c'était transitoire et qu'ils étaient en train de préparer un après. Voilà, alors on peut se dire...
15 ans après, l'après n'est toujours pas là.
Voilà, alors après, il y a eu quand même des choses réalisées. Ça, c'est ce qui est un peu énervant dans les critiques de l'extractivisme aujourd'hui. C'est que, on voit évidemment le côté continuation des politiques des hydrocarbures. C'est vrai. Ça a peut-être pas changé aussi vite que prévu. On voit quand même le projet d'industrialisation du lithium, qui est quand même un effort pour essayer de construire sans faire n'importe quoi, sans vendre leurs ressources aux entreprises étrangères, notamment américaines ou chiliennes ou allemandes ou chinoises, l'ensemble du salaire.
Une chaîne de production à partir de zéro.
Tout à fait. Mais ça, c'est jamais mentionné dans les critiques de l'extractivisme. On a un peu l'impression qu'après les 4-5 premières années où c'était la vision enchantée d'Evo Morales, il fallait surtout pas y toucher, surtout pas critiquer. Maintenant, c'est la course à la radicalité, notamment chez les observateurs de gauche, pour accuser le gouvernement de trahison des idées révolutionnaires et de poursuite du néolibéralisme par d'autres moyens. Et du coup, au détriment de quand même beaucoup de choses qui se font, on se dit, mais mince, il y a eu une multitude d'initiatives dans tous les domaines. C'est quand même une expérience de gouvernement qui est un peu léger, je trouve, de jeter comme ça le taxant de néolibéralisme et de trahison, alors qu'il y a eu des choses de faites.
Le président Evo Morales a trahi les siens.
Mais les critiques sur sa politique environnementale sont nombreuses, notamment à cause de l'exploitation minière et de la déforestation, vécue comme une trahison par une partie des indigènes.
On voit bien que le gouvernement pactise au jour le jour avec les multinationales et avec les compagnies pétrolières.
Les hydrocarbures sont la première source de revenus du pays, l'un des plus pauvres d'Amérique latine. Problème, ces explorations vont avoir lieu dans des parcs nationaux et des territoires indiens.
Il y a une grande contradiction dans les politiques que mène l'État bolivien.
Je reviens du monde d'avant.
La révolution, elle est pas, je ne dis pas qu'elle est inachevée, mais il faut encore du temps pour le faire. Je ne sais pas s'il y a la volonté politique non plus, mais je trouve que ce serait plus intéressant de prendre ce qui s'est passé depuis 14-15 ans à sa vraie valeur d'expérience historique un peu exceptionnelle, plutôt qu'entrer dans des espèces de petits calculs d'apothicaire. Ils ont trahi, ils n'ont pas trahi, ils ont fait ça bien, ils n'ont pas fait ça bien, voilà.
Et c'est ce regard un peu panoramique, chronologique aussi, que vous faites dans ce bouquin que vous sortez là, qui s'appelle Altiplano.
Oui, vous verrez que j'ai des textes très critiques dès 2007 et que paradoxalement, maintenant, je redeviens un peu plus bienveillant envers l'action du gouvernement dans la durée, justement parce qu'il y a cette dimension historique qui me semble importante de prendre en compte, ce qui n'exclut pas les critiques. Mais voilà, la prendre au sérieux en tant que volonté profonde de changement social, et la Bolivie qu'on a aujourd'hui n'est pas la même que la Bolivie que j'ai connue en arrivant la première fois en 98, en bien ou en mal, si on veut. Mais...
Et c'est d'autant plus intéressant d'avoir ce regard rétrospectif, c'est qu'entre-temps, il y a eu cette parenthèse d'un an en 2019, où la droite la plus dure est revenue au pouvoir, alors certains disent par un golpe, c'est-à-dire par un coup d'État, d'autres disent par des manœuvres politiques, une destitution forcée, en tout cas un passage en force, et une présidente par intérim. Et c'est une année pendant laquelle l'opposition a tenté de démonter tout ce que le pouvoir du MAS, et pas simplement Evo Morales, avait monté autour des 14 années précédentes.
Oui, ils ont même dit la Bible revient au palais, dans le symbole des policiers ou des militants de droite brûlant la Wipala, le symbole des populations indigènes.
Ça, c'est le drapeau avec les carreaux de toutes les couleurs qui représentent les 36 nations indigènes.
Et dès qu'ils ont commencé à brûler la Wipala, on a vu que les campagnes qui avaient regardé ça un peu de loin, parce qu'Evo Morales n'avait pas forcément, dans les dernières années, il y avait une sorte d'usure du pouvoir. Et par contre, dès que la Wipala a été brûlée, les campagnes et les périphéries et certains centres-villes se sont mobilisés pour défendre cet acquis-là. Voilà. Et là, ils ont vu que ce n'était pas possible. Donc, je pense que le choix ensuite du gouvernement Agnès, en plus, ils n'ont pas eu de chance, il y a eu une pandémie. Ils ont vu que ça allait être perdu très très vite. Ils se sont dit...
Parce qu'ils ont imposé quoi dès le départ? C'était la levée de toutes les restrictions à l'exportation qui avait
été... C'est la première mesure. C'est de supprimer les restrictions aux exportations qui étaient quand même la garantie de la souveraineté alimentaire nationale et l'expulsion des ambassades de Cuba et de Venezuela tout de suite. Alors qu'on se demande s'il n'y avait pas autre chose à faire pour un gouvernement transitoire. Et ils se sont bien gardés d'organiser les élections tout de suite. Et la pandémie aidant, ça a mis un an. Voilà. Mais la période était très très difficile à vivre, avec un ras-le-bol d'Evo qui était réel, la réaffirmation visible du racisme, même pas voilée, où on s'est remis à taxer les militants indianistes de sauvages, de hordes, qui allaient débarquer sur la ville. Donc c'était quand même très dur, donc on n'est pas non plus à l'abri de toute cette effervescence que l'on ressent, enfin, quand on est observateur.
Je renonce à mon poste de président.
L'annonce était devenue inéluctable, c'est désormais officiel. Evo Morales quitte son poste de président de la Bolivie. Peu de temps après sa déclaration sur son compte Twitter, il dénonce une insurrection et un coup d'État.
Le président américain Donald Trump s'est félicité de la démission forcée d'Evo Morales, y voyant un signal fort, je cite, pour ce qu'il juge être des régimes illégitimes en Amérique du Sud.
Jeanine Agnès a été reconnue présidente par intérim par plusieurs pays, notamment les États-Unis et la Russie. La France, elle, s'est contentée de prendre acte de la situation.
Et donc vous êtes venu ici pour suivre cette ébullition, pour l'étudier de près, avec cette problématique de l'eau en particulier, ces 20 années de terrain. Vous en revenez dans ce bouquin à poser la question, comment on fait? Comment ça se passe quand on veut changer la vie, quoi, en fait?
Oui, et là, parfois on se dit, il y a quand même une occasion historique manquée. D'autres fois, on se dit, c'est quand même un processus d'une ampleur exceptionnelle. Voilà, donc on est sans arrêt, on est pris aussi dans des opinions, dans des affects. Et tout le travail sociologique, c'est d'essayer de prendre la distance avec ça. Et le regard a posteriori, ou le regard un peu historique, justement, permet de relativiser un peu les choses. Et voilà, de ne pas condamner ou de ne pas s'emballer trop vite, mais d'essayer de dire, il s'est passé quelque chose d'important, qu'on a du mal à mesurer, qui va être encore en jeu pendant pas mal d'années. Tout ce que ça a suscité, ça n'en finit pas. Et c'est pas parce qu'il y a des choses qui sont faites, qui marchent, que la révolution est accomplie non plus. Ou inversement, c'est pas parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas d'un point de vue matériel, économique, qu'il n'y a pas des choses symboliquement qui ne sont pas de portée révolutionnaire. Voilà. Mais c'est pour ça que les cas précis comme Ampatoury sont intéressants.
C'est ici, là où on est, donc ce barrage devant lequel on est.
Voilà. Permettre, sur des petits cas concrets, de retrouver des enjeux assez importants et de dire, d'un côté, ça marche, et de l'autre côté, il manque des choses aussi. C'est quoi un processus de changement au bout du compte? Là, les gens, ils ont accès, ils n'ont pas accès à l'eau potable ici, et la communauté originelle, traditionnelle, on va dire, est quelque peu mise à mal par des concurrences entre voisins, entre administrations, etc. Mais il y a des maisons qui se construisent, il y a une école désormais. Voilà. Alors, est-ce que c'est une révolution? Peut-être que c'était les premiers pas.
C'est pour ça que vous dites votre travail, là, c'est un croisement de sociologie, d'anthropologie, de sciences politiques. Et puis c'est aussi de vous regarder, vous, pendant ces 20 ans, sur votre travail aussi. Vous descendez un peu du guidon pour vous regarder bosser.
Oui, ça peut parfois être un peu narcissique aussi, il faut faire attention.
Mine de rien, le chercheur qui s'interroge sur lui, c'est quand même une des bases, a priori.
De la sociologie réflexive, comme disait Bourdieu, oui. Mais après, c'est vrai que ça donne un peu des garde-fous. Je me rappelle quand tout le monde s'enthousiasmait pour la Bolivie, une des raisons pour lesquelles je restais très près de mes terrains, c'était de voir qu'est-ce qui se passait en dehors des feux de l'actualité et de l'emballement ou de la vision enchantée généralisée sur Evo Morales. Là, aujourd'hui, que l'ensemble du monde académique, voire politique, casse sur Evo,
L'euphorie est retombée.
J'ai plutôt tendance à réhabiliter un petit peu ça.
Et c'est en ça que l'exemple bolivien peut servir ailleurs.
Oui, l'idée, qu'est-ce que l'Amérique latine peut apporter à la compréhension des phénomènes globaux et de ce qu'on vit nous aussi.
C'est la question que j'avais envie de poser. dans nos sociétés européennes où on est toujours tiraillé à peu de choses près par les mêmes problématiques publiques, ouais. privées, communs et environnement.
Bah, ce que ça montre la Bolivie, bon, à travers l'eau, mais pas seulement, hein, c'est que si on reste dans les, justement, les catégories publiques, privées, comme le font beaucoup de nos politiques aujourd'hui, ça marche pas tout à fait. Voilà, ce que veulent les gens de son, c'est avoir accès à un service. Cette opposition publique-privée, c'est pas forcément la panacée. On le voit dans le cas de l'entreprise EPSAS, on est au-delà de tout ça. Ouais. Ça veut aussi que les oppositions entre les vœux pieux révolutionnaires, les formes d'organisation un peu magiques.
L'IACA, Faucon.
Voilà, et le rôle de, donc les formes de démocratie directe, et le rôle de l'État, tout puissant, mais qui, s'il n'appuie pas ces organisations de base aussi, ça ne fonctionne pas très bien.
Verticalité, voilà. Transversalité.
Donc c'est un ensemble de paradoxes. On voit que les formes d'organisation de base ne marchent pas tout à fait si l'État ne le soutient pas non plus. Et par ailleurs, est-ce que l'idéal de la politique, c'est de faire des assemblées à longueur de journée et de
pour se décider, voilà. des fournitures en eau, des ordures,
voilà, ou de voir comment on nettoie. Voilà, donc ça nous met dans des problèmes concrets. C'est quoi des formes d'organisation? Je veux bien aller dans une ZAD et gérer des trucs au niveau local.
Faire des AG tous les jours.
Voilà, mais est-ce que qu'est-ce que c'est du coup à la fois une démocratie directe, des formes de gouvernement, ça passe par où? Et par exemple, où est l'éducation dans tout ça? Où est la gestion du système de santé? Est-ce que ça peut entrer dans ces cadres-là? Voilà, ça pose tout un ensemble de problèmes de ce point de vue-là. Et là, dans la gauche européenne, on va dire l'insistance sur les petites solutions locales. Ben, on voit que c'est pas la panacée. Et justement, le cas des coopératives d'eau montre que c'est en train de disparaître s'il n'y a pas de soutien institutionnel et s'il n'y a pas de volonté politique de faire vivre ces structures-là autrement. Et la question que pose la Bolivie, effectivement, c'était comment construire un État qui arrive à préserver en même temps ces formes d'organisation. On voit que les 14 années de Morales, dans un contexte très difficile politiquement, d'affrontements très violents, de besoin de rétablir une forme d'autorité de l'État et des cadres réglementaires, d'établir un État régulateur, c'est fait parfois au détriment de ces formes d'organisation. Et on crie à la trahison parce que ils n'ont sans doute pas fait autant qu'ils auraient dû.
Je ne sais pas comment conclure cet entretien.
Il fait froid.
Allons-y, on est à 3800 mètres d'altitude, il y a un vent qui caille, on est en haut des montagnes, et il y a ce gigantesque barrage là qui déborde à moitié parce qu'il y a eu beaucoup de pluie et qu'il est nourri par les glaciers qui fondent grâce au réchauffement climatique.
Entre désabusement radical et espoir immodéré, entre mélancolie révolutionnaire et enthousiasme partisan. Voilà ce qu'écrit Franck Poupeau dans son livre qui paraît aux éditions Raison d'agir en septembre prochain, Altiplano, fragment d'une révolution. En attendant, la défaite par les urnes de ceux qui avaient renversé Evo Morales aura au moins apporté la preuve de la vitalité démocratique de la société bolivienne. Un grand merci donc à tous les habitants de Villa Flor de Pucara qui nous ont si bien reçus, à Stefano Archidiacono et Oscar Oliveira de la Fondation Abril, à Franck Poupeau et surtout à Maël Mariette, dont vous pouvez encore trouver l'article dans le numéro de juillet du Monde Diplomatique, à Balamine ou à Baleta. Retrouvez sur franceinter.fr le podcast, les liens, les photos de ce reportage réalisé par Clément Nouguier, monté par Martine Abba avec Mister Joub à la programmation musicale. C'était Je reviens du monde d'avant, juste à temps pour le journal de 19h sur France Inter. Et moi je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle étape très loin de l'Altiplano chez les Samis de Laponie.